Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Le grand débat sera-t-il conclu par un référendum? C'est une hypothèse qui prend forme à l'Élysée où rien n'est encore décidé. Mais tout doit être anticipé. Plusieurs questions pourraient être posées aux Français le jour des élections européennes le 26 mai. Une idée qui ne fait pas l'unanimité ni dans la majorité ni dans l'opposition. La mort de Josette Audin, la veuve du militant communiste Maurice Audin, disparu en Algérie en 1957. Le président de la République avait reconnu la responsabilité de l'État en septembre dernier seulement. Josette Audin avait 87 ans. Il n'y aura pas d'élection présidentielle au Venezuela. Le président Maduro n'a pas cédé aux pressions des Européens dont l'ultimatum prend fin ce dimanche soir et qui devrait en conséquence reconnaître officiellement Juan Guaido comme président par intérim. Un chef de l'Église catholique dans le berceau de l'islam, c'est une première. Le pape François est arrivé ce soir aux Émirats Arabes Unis. En Ligue 1 de football, la première victoire de Monaco à domicile face à Toulouse, la descente aux enfers qui se poursuit pour l'OM battu à Reims. Un partout entre Nîmes et Montpellier tout à l'heure. L'affiche de cette 23e journée, c'est ce soir Lyon-PSG. Les Françaises intraitables en rugby, plus que jamais favorites du tournoi après leur balade face aux Galloises hier, 52-3. Et puis c'est un rendez-vous incontournable pour tous les Américains. Ce soir, la finale du Super Bowl, plus de 100 millions de téléspectateurs. Le journal des sports dans un instant, c'est avec Cécilia Arbona. Enfin, retour à la normale ou presque sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes où les chutes de neige la nuit dernière ont causé beaucoup de perturbations. Demain, temps sec à l'est, humide à l'ouest.
France Inter.
Un référendum, oui ou non? L'hypothèse d'une consultation des Français qui viendrait conclure le grand débat revient sur le tapis ce dimanche. Le JDD croit savoir qu'Emmanuel Macron la souhaite et s'y prépare. Elle pourrait prendre cette consultation la forme d'un référendum à questions multiples qui pourrait être organisé le 26 mai en même temps que les élections européennes. L'idée n'est pas nouvelle et reste au conditionnel. Mais il semble que l'Élysée ait déjà pensé à la logistique et prévu toute éventualité pour le jour où le président prendra sa décision. Décision qui ne pourra pas intervenir en tout état de cause avant la fin du grand débat, Élodie Forêt. Ce que tous les ministres d'ailleurs rappellent à longueur de temps et d'antenne.
Oui, le gouvernement est prudent. Il ne veut pas laisser croire que la décision est déjà prise alors que le débat est en cours. Le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, était ce midi sur France Inter.
Ce serait très présomptueux de ma part de vous dire, ou de quiconque, de vous dire, aujourd'hui, la sortie du grand débat, ce sera ça. Pourquoi? Parce que justement, on est en train de faire ce match du grand débat. Attendons que le match soit finalisé, soit joué, pour savoir quelles vont être les sorties.
L'opposition, elle, n'attend pas la fin de ce débat pour réagir. À droite, le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, met en garde Emmanuel Macron contre un référendum qui ne porterait que sur des questions institutionnelles.
Si c'est le seul sujet qu'on propose aux Français comme point de sortie, alors le président de la République prendra un grand risque. Parce que quel est le vrai sujet? Qui est le drame de notre pays? C'est l'absence de valorisation du travail. Le sujet de fond de notre pays, c'est l'appauvrissement des classes moyennes.
Très critique aussi Marine Le Pen, la présidente du RN. Elle dénonce une manœuvre politique.
Moi, je suis toujours d'accord pour le référendum. Mais qu'on vienne pas nous dire qu'il s'agit là de quelque chose qui émerge en réalité du débat. Tout ça, c'est totalement bidon. Il va recycler sa modification constitutionnelle par l'intermédiaire de ce référendum. Donc, il va demander aux Français si les Français sont d'accord avec ce qu'il avait déjà proposé.
Le référendum, un sujet dont les chefs des partis d'opposition représentés au Parlement pourront débattre directement avec Emmanuel Macron. Ils seront tous reçus cette semaine à l'Élysée.
Et sur ce principe du référendum, sans préjuger des questions, il pourrait y avoir un consensus. C'est ce que souligne l'une des figures des Gilets jaunes, Thierry-Paul Valette, pour lequel, oui, il faut consulter les citoyens le plus souvent possible et sur des sujets majeurs. En attendant, le grand débat né de la crise des Gilets jaunes se poursuit, y compris pour Emmanuel Macron qui sera demain en banlieue parisienne, à Courcouronnes, dans l'Essonne. Cette crise des Gilets jaunes aura aussi pour conséquence cette semaine cette nouvelle loi anti-casseurs qui doit être soumise aux députés mardi et qui divise la majorité. Certains élus La République En Marche y sont formellement opposés. C'est le cas d'Aurélien Taché, député du Val-d'Oise, figure de l'aile gauche du macronisme, et qui le répète au JDD, il ne votera pas cette loi, en raison notamment de son article 2, qui permet au préfet d'interdire de manifestation toute personne dont le comportement constituerait une menace pour l'ordre public, prérogative aujourd'hui dévolue au juge. À l'étranger, au Venezuela, un président nommé Guaido, 6 pays européens dont la France avait donné jusqu'à ce soir à l'actuel chef de l'État, Nicolas Maduro, pour annoncer une élection présidentielle anticipée, ce qu'il n'a pas fait. Tout juste a-t-il proposé l'organisation d'élections législatives, ce que la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a qualifié de farce. On ne peut être plus clair, Louise Baudet. Juan Guaido est donc pour l'essentiel des Européens ce soir le président du Venezuela par intérim.
Les capitales européennes avaient donné 8 jours à Nicolas Maduro pour convoquer une présidentielle anticipée. Comme prévu, le président vénézuélien a balayé cet ultimatum d'un revers de main. À la place, il entend dissoudre le Parlement acquis à ses opposants. À Paris, la ministre des Affaires européennes dénonce
une farce tragique.
Sur LCI, Nathalie Loiseau hausse le ton alors que l'ultimatum arrive à expiration.
Si d'ici ce soir, Monsieur Maduro ne s'engage pas à organiser des élections présidentielles, nous considérerons que Monsieur Guaido est légitime pour les organiser à sa place. Et nous le considérerons comme le président par intérim jusqu'à des élections légitimes du Venezuela.
La légitimité de Juan Guaido, déjà reconnue par les États-Unis, le Canada et de nombreux pays d'Amérique latine, dont la Colombie et le Brésil. Il y a 3 jours, le Parlement européen leur a emboîté le pas, mais les capitales européennes ont le plus grand mal à s'accorder sur le sujet. Un ultimatum a bien été lancé, mais par 6 pays seulement, rejoint in extremis ce dimanche par l'Autriche. L'horloge tourne et pour l'heure, aucune déclaration coordonnée ne se dessine. L'Union européenne a toutefois constitué un groupe de contact international visant à favoriser l'organisation d'une présidentielle au Venezuela. Première réunion prévue jeudi prochain en Uruguay.
Et pour couronner le tout, Donald Trump n'exclut pas ce soir l'envoi de troupes américaines au Venezuela. C'est une option, a expliqué le président américain à CBS. En Italie, peut-être le premier vrai grand désaccord entre les partenaires du gouvernement, alors que le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, Matteo Salvini, avait apporté son soutien au projet de ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Le vice-premier ministre et président du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, déclare qu'elle ne se fera pas, ce qui vient ajouter de nouvelles tensions vis-à-vis du voisin français qui, lui, veut poursuivre le projet. Mais c'est au sein du gouvernement italien surtout que la situation pourrait se compliquer, Marie Duhamel.
Tant que nous serons au gouvernement, la liaison ferroviaire ne se fera pas. Luigi Di Maio se montre inflexible devant ses électeurs. Pour le mouvement populiste, le projet à 8,6 milliards d'euros, dont 35% à la charge des Italiens, est un immense gaspillage de l'argent qui pourrait aller à des projets qu'il juge utiles, un nouveau métro à Turin ou un meilleur réseau ferroviaire dans la péninsule. En pleine campagne électorale, avant les européennes fin mai, le mouvement 5 étoiles ne cédera rien à la Ligue, dont la base électorale est-elle favorable au Lyon-Turin. Son chef Matteo Salvini, casque jaune sur la tête, a pourtant promis aux ouvriers du chantier que celui-ci irait de l'avant. Il vaut mieux, dit-il, dépenser 3 milliards pour achever des travaux que pour boucher des trous déjà creusés et payer des indemnités à nos partenaires. Conscients de leurs divergences, les deux alliés au gouvernement ont commandé un rapport afin d'évaluer les coûts et bénéfices que pourrait rapporter le Lyon-Turin. Remis début janvier, il serait en cours de traduction en français. Or, à Paris, on s'impatiente. La ministre des Transports a invité vendredi l'Italie à prendre rapidement des décisions pour respecter le calendrier des travaux et mener ce projet commun à son terme. Rome, Marie Duhamel, France Inter.
Au Royaume-Uni, une nouvelle déconvenue liée au Brexit. Le constructeur japonais Nissan annonce qu'il renonce à son projet de produire l'un de ses modèles, le crossover X-Trail, dans son usine de Sunderland, au nord-est de l'Angleterre, sa principale implantation européenne. Décision que le président de Nissan Europe explique par les incertitudes qui persistent sur les relations futures du pays avec le continent. La voiture sera finalement construite à Kyushu, au Japon. Un pape chez les émirs du Golfe, c'est une première. La première fois que le chef de l'Église catholique se rend dans la péninsule arabique, le berceau de l'islam. Le pape François qui vient tout juste d'arriver à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis. Avant même de partir ce matin, il avait demandé aux parties impliquées dans le conflit du Yémen de respecter la trêve récemment signée, trêve essentielle pour l'acheminement de l'aide humanitaire.
Je suis avec grande préoccupation la crise humanitaire au Yémen. La population est épuisée par ce long conflit. De très nombreux enfants souffrent de la faim et on ne peut pas accéder aux dépôts d'aliments. Je lance un appel à toutes les parties intéressées et à la communauté internationale pour favoriser de manière urgente le respect des accords établis, assurer la distribution de la nourriture et travailler pour le bien de la population.
Le pape François a des propos recueillis par Mathilde Imberti. A noté que les chrétiens dans le Golfe, ce sont essentiellement des catholiques, travailleurs migrants des Philippines et d'Inde, pour la plupart, en tout 3,5 millions de personnes, dont 1 million aux Émirats Arabes Unis. Elle était la veuve de Maurice Audin. Josette Audin, 87 ans, est morte hier à son domicile de Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, qui l'annonce ce dimanche, salue la mémoire de celle qui s'est battue toute sa vie pour la vérité et la mémoire de son mari. Son mari Maurice Audin, militant communiste arrêté en 1957 en Algérie, est probablement mort sous la torture. Emmanuel Macron a reconnu en septembre dernier pour la première fois la responsabilité de l'État, ce dont elle l'avait remercié, tout en regrettant bien sûr une justice un peu tardive, Thibault Lefebvre.
Oui, Josette Audin, c'est d'abord l'histoire d'un combat presque achevé, plus de 60 ans de lutte pour la reconnaissance par l'État français de la disparition de son mari. C'était en 1957, en pleine guerre d'Algérie, Maurice Audin, jeune militant communiste, mathématicien, disparaît 10 jours après avoir été arrêté, puis exécuté ou torturé à mort par des parachutistes français. Et c'est seulement en septembre dernier, le 13 septembre, 61 ans après sa mort, qu'Emmanuel Macron se rend au domicile de Josette Audin et lui demande solennellement pardon.
Je l'ai remercié parce que quand même c'est la première fois depuis longtemps qu'un responsable politique se présente de cette façon. Il aurait mieux valu que ça se passe avant, c'est sûr, mais bon, on ne peut pas refuser et dire que ce n'est pas bien. Il valait mieux qu'il y ait quelqu'un qui, un peu tard peut-être, mais parle de cette façon, quoi. Une justice un peu tardive et qui ne sert plus à grand-chose, mais bon, c'est mieux que rien.
À quoi vous avez pensé quand il a reconnu cette responsabilité de l'État dans la mort de votre mari ?
J'ai pensé à mon mari, à mes enfants et à moi.
Josette Audin au micro de Jérôme Jadot. Elle est donc morte samedi matin, moins de 5 mois après avoir obtenu gain de cause. Une satisfaction toute relative pour son plus jeune fils Pierre, puisque sa mère s'est éteinte selon lui sans savoir vraiment factuellement ce qui est arrivé à son mari. Après la reconnaissance, c'est donc un combat pour la connaissance qu'il promet de continuer pour déterminer tout simplement les circonstances de la mort d'un père disparu quand il avait seulement 1 mois et demi. Les obsèques de Josette Audin auront lieu cette semaine dans la plus stricte intimité familiale.
Elle restera une inspiration pour ma vie entière, souligne ce soir le député La République En Marche, Cédric Villani, proche de la famille Audin. C'est une grande dame qui nous a quittés, écrit également le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Quant à l'association Maurice Audin, elle annonce qu'elle va continuer le combat, à la fois pour poursuivre les exigences de vérité sur les conditions de son assassinat, mais aussi l'action sur tous les disparus de la guerre d'Algérie. Sur les routes, tout est redevenu presque normal pour la saison dans les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes où la situation a été très difficile ce matin. Les abondantes chutes de neige de la nuit dernière ont provoqué d'importantes perturbations du trafic, notamment en Isère et dans les Deux-Savoie. 900 étudiants belges et néerlandais sont par exemple restés bloqués à Saint-Sorlin-d'Arves en Maurienne où leurs autocars ne pouvaient plus circuler. Ils ont été hébergés dans des salles communales et puis 15 000 foyers ont été privés d'électricité ce dimanche en Isère. La préfecture a d'ailleurs mis en cause Météo France en jugeant que ces fortes chutes de neige avaient été imparfaitement anticipées. L'alerte orange, neige et verglas a finalement été levée en début d'après-midi. Parmi les conséquences de cet épisode, à noter que les transports scolaires seront suspendus demain matin dans le Cantal et en Lozère. L'occasion de faire le point tout de suite sur les routes.
Point route avec Calibat. 73 000 entreprises et artisans pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Guillaume Fariol, un accident près de Chambéry ce soir.
Oui, sur l'A43 en direction de Lyon. Accident à Dulin exactement sur la voie du milieu. Prudence, il cause 3 quarts d'heure de bouchon. Un peu plus à l'ouest, vous le disiez, il ne neige plus mais la circulation reste délicate dans le massif central, notamment sur l'A75 dans le Cantal et en Lozère à cause du verglas. Pareil sur la nationale 88 de Mende à Saint-Étienne en passant par le Puy-en-Velay. Enfin, en Ile-de-France, il y a un accident sur l'A1 en direction de la capitale, juste au nord de Paris. Du coup, ça bouchonne pendant 10 minutes juste avant la porte de la chapelle.
Guillaume Fariol, au PC Mobilité de Radio France, a noté que 28 skieurs sont restés bloqués pendant 2 heures en début d'après-midi sur un télésiège de la station Pyrénées 2000 à Font-Romeu. Après un incident mécanique, ils ont été évacués par des cordes et raccompagnés en bas des pistes sur des dameuses. L'incident n'a fait aucun blessé et Michel Blanc ne faisait pas partie du groupe. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Demain, retour d'un temps sec à l'est, mais humide à l'ouest. Par contre, pas de changement pour le bassin méditerranéen avec du vent fort et un ciel dégagé du golfe du Lion à la Provence et toujours un régime d'averse sur la Corse. Sur la moitié ouest du pays, il faudra donc ressortir le parapluie déjà le matin sur la pointe ouest, puis au fil des heures sur le Poitou-Charente, le Val-de-Loire et le nord de la Seine. Des pluies possiblement mêlées de flocons en arrivant en après-midi sur le bassin parisien et le nord, mais cette neige ne tiendra pas au sol. Plus à l'est, le soleil va faire son retour, mais l'après-midi, le ciel va quand même prendre un aspect un peu plus nuageux et on se méfiera du fort risque d'avalanche sur les Alpes du Sud. En fin de nuit, pour échapper aux gelées, il faudra se trouver près de la mer. L'après-midi, il est prévu 12 à 15 degrés sur l'arc méditerranéen, mais pas plus de 6 degrés en moyenne sur les autres régions.
Avant de passer au sport, un bilan de la grande fête populaire de la musique classique, la Folle Journée de Nantes. Elle aura réuni cette année plus de 132 000 spectateurs payants, légèrement moins que l'année dernière. L'an prochain, cette Folle Journée, qui s'étend en fait sur 5 jours, sera consacrée à Beethoven pour le 250e anniversaire de sa naissance. Le sport. Le sport, c'est avec vous, Cécilia Arbonnat, bonsoir.
Bonsoir.
Et on commence par du football, le derby du Languedoc qui s'est achevé tout à l'heure sur un match nul.
Montpellier qui se déplaçait cet après-midi à Nîmes pour la 23e journée de Ligue 1 est reparti du stade des Costières avec un point. Les deux équipes se sont neutralisées en inscrivant un but chacune. Les Héroletais reprennent la 5e place du classement à Strasbourg alors que les deux formations comptent un match de retard. Ce sont pourtant cet après-midi les Nîmois qui avaient ouvert le score dès la 2e minute de jeu avec Loïc Landre, mais Andy Delors a égalisé en fin de partie. Andy Delors reconnaît que les joueurs du Gard en face ont attaqué très fort en mode affamé.
Ils nous ont bouffé d'entrée, c'est vrai, dans les duels, dans les seconds ballons. C'est compliqué, mais voilà, pas de regret. Au contraire, revenir dans un match comme ça, ça nous donne encore plus de force dans les têtes. Moi, enfant de la région, et voilà, tous les supporters, ils savaient que j'allais marquer. C'est extraordinaire ce qu'on vit cette saison. On fait preuve d'une force mentale extraordinaire. On prend ce but d'entrée. Il y a tout le public qui pousse. C'est un match compliqué. C'est important pour la suite. Et voilà, on va essayer de jouer le coup à fond. Il y a quelque chose à jouer cette saison. Donc, on va essayer jusqu'au bout.
Andy Delors au micro de Stéphane Burgat.
Avec en foot toujours cette question, qui parviendra à faire tomber le PSG, toujours invaincu cette saison?
L'Olympique Lyonnais, peut-être, rêve en tout cas d'accomplir cet exploit ce soir à domicile. 3e au classement, l'OL croit en ses capacités et veut réussir là où les autres poids lourds de l'élite se sont cassés les dents. Cédric Guillou.
Faire chuter le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais l'a déjà fait 2 fois ces 3 dernières saisons devant ses supporters. 2-1 la saison dernière, 2-1 encore en 2016. Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OL, connaît donc la recette pour battre le PSG.
On sait ce dont on a besoin pour les bousculer et pour les battre, même si c'est une très très bonne équipe. Donc on va s'inspirer de ce qu'on avait déjà fait sur les deux précédents matchs où on les a battus.
Le Paris Saint-Germain, qui n'a concédé que 2 matchs nuls cette saison en Ligue 1, devrait donc trouver du répondant ce soir sur la pelouse du Groupama Stadium. Ce qui n'est pas pour déplaire à Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, alors que se profile dans 9 jours le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester United.
Tous les matchs dans ce niveau sont un bon test. Et le match est super dur, super difficile parce que Lyon a beaucoup, beaucoup de qualité. Ça, c'est nous. nous, parce que ça c'est bien pour montrer que nous sommes capables de jouer à Lyon et de montrer notre qualité aussi. Et ça c'est égal si on joue après contre Manchester, mais en avant on joue contre Lyon, n'oubliez pas.
Coup d'envoi de ce Lyon-Paris-Saint-Germain ce soir à 21h.
Cédric Guillou, des nouvelles et des bonnes de la mascotte française de la Coupe du Monde cet été en Russie. J'ai nommé Benjamin Pavard et sa frappe de victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite, c'était le 9 décembre. Il fait son retour comme titulaire ce soir avec Stuttgart contre Fribourg dans le championnat d'Allemagne.
Elles incarnent le rugby qui gagne, le rugby qui emballe, les Bleus ES, bien sûr.
Ouais, le rugby qui réjouit surtout. 2000 personnes les ont acclamées hier soir à Montpellier, ces joueuses de l'équipe de France de rugby féminin. Elles ont parfaitement réussi leur entrée dans le tournoi des Six Nations en écrasant leurs homologues du Pays de Galles, 52-3. Grâce à ce succès, les tenantes du titre occupent donc la tête du classement. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de comparer. Il y a les femmes en état de grâce, les hommes au fond du seau. Avant le deuxième match contre le même adversaire dans ce tournoi, l'Angleterre, dimanche prochain, on va faire le constat d'un rugby à deux visages avec un expert. Il s'appelle Marc Lièvremont, ancien sélectionneur de l'équipe de France masculine, et il se confie au micro de France Inter. Écoutez.
C'est vrai que les filles, c'est un petit peu le seul rayon de soleil du rugby français après une année 2018 particulièrement sombre, et je ne parle pas bien évidemment que des résultats de l'équipe de France des garçons, donc mais de tous ces drames qu'ont dit notre sport. Effectivement, les filles, c'est le bel exemple. C'est des jeunes femmes responsables, passionnées, pétillantes, elles pratiquent un joli rugby. Ça fait du bien. On espérait une réaction du 15 de France, donc des garçons. Ça a été encore une occasion ratée. Collectivement, on sent moins. Il est difficile de tirer un trait sur cette génération et de dire à des garçons talentueux, messieurs, rentrez chez vous et d'une certaine manière peut-être sacrifier la Coupe du Monde. Je serais tenté, mais je ne suis qu'un simple observateur aujourd'hui, de dire bon, perdu pour perdu, on aura du mal à gagner le tournoi, on aura certainement du mal à être champion du monde, préparons l'avenir et lançons du coup en sacrifiant certains cadres et en faisant confiance à des jeunes, mais quitte à perdre, parce qu'il y a quand même de grandes chances que cette équipe, qu'elle n'ait comme objectif que des places d'honneur pour ce tournoi, et de faire confiance à des jeunes.
Voilà Marc Lièvremont qui donne quelques pistes de réflexion pour sauver le rugby français. Une petite correction, j'ai dit que hier les filles avaient joué devant 2000 personnes, c'était 8000 carrément.
C'est mieux. En cyclisme, la saison est lancée avec le Grand Prix de la Marseillaise.
Le Français Anthony Turgis de l'équipe Direct Energy a remporté au sprint la 41e édition de cette course longue de 140 km. Turgis a 24 ans, il est vice-champion de France sur route 2018. Il a devancé son dernier compagnon d'échappée, son compatriote Romain Combeau, qui court lui pour la formation Delco Marseille Provence. Alors Anthony Turgis s'empare, grâce à cette victoire d'aujourd'hui, de la première place de la Coupe de France, et donc son manager est ravi, Jean-René Bernaudeau.
Démarrer bien, c'est toujours mieux. Le travail effectué en hiver a été très sérieux, très concentré sur les détails, avec une amélioration dans chaque domaine vu au passé qu'on a. Donc on n'était pas très inquiets sur les réglages, on savait que le travail avait été bien fait. Maintenant, sur le terrain, on s'aperçoit que on est un petit peu dans le vrai, mais il faut rester un petit peu humble, la saison va être longue.
Jean-René Bernaudeau, manager de l'équipe cycliste Direct Énergie.
C'est une course mythique pour les motards qui prennent possession de la plage du Touquet dans le Pas-de-Calais.
L'Enduropale s'est déroulée cet après-midi. 1217 pilotes étaient au départ de ce circuit de 13 km. Une épreuve endiablée avec du suspense, des rebondissements. C'est un Anglais qui s'est imposé sur une moto KTM. Il s'appelle Nathan Watson. Il a 25 ans et l'an dernier, il avait terminé deuxième. Cette fois, il était au coude à coude avec le nordiste Milko Potisek, un motard de Dunkerque. Et entre le bruit des engins, les cris de la foule, les giclées de sable autour de lui, Nathan Watson n'a même pas réalisé, immédiatement en tout cas, qu'il avait gagné sur le fil.
C'est incroyable, c'est une victoire que je n'attendais pas évidemment. Je ne savais pas exactement où j'en étais. On s'est battu de la première à la dernière seconde. Il a fallu que j'arrive sur la ligne d'arrivée pour me rendre compte que j'avais réellement gagné.
an amazing finish to the Vitry season.
Et le premier Français de cet enduropale du Touquet s'appelle Richard Fura sur Honda. Il se classe troisième, triple lauréat du Dakar, tout juste rentré du Pérou. Le régional Adrien Van Beveren sur Yamaha a terminé quatrième. Petite devinette, Yves Decamp, est-ce que vous connaissez ça?
Bah, comme vous me l'avez dit, je connais, c'est Maroon 5.
Mais ouais, vous dansez tout le temps, je le sais, sur ça, tous les soirs, bravo. Le groupe pop-rock américain a été chargé du spectacle et de la bande-son ce soir à la mi-temps du Super Bowl à Atlanta, feu d'artifice de la saison de football américain. Cette grande finale opposera les Los Angeles Rams aux New England Patriots. C'est la troisième fois en quatre ans que les Pats, comme on les surnomme, participent à cet événement planétaire qui va être suivi par 100 millions de téléspectateurs à travers le monde. L'équipe des New England sera emmenée une nouvelle fois par une légende, l'inoxydable Tom Brady. Son portrait avec Loïc Piala.
Tom Brady harangue la foule avant de s'envoler pour Atlanta. On est toujours là à hurler comme un avertissement à ceux qui l'envoyaient à la retraite. À 41 ans, le quarterback va disputer son 9e Super Bowl, une longévité insensée qu'il doit en partie à son alimentation à base de légumes. Et la saison prochaine, Brady jouera encore comme il l'a confié à ESPN.
Mon objectif, c'est de jouer jusqu'à 45 ans. C'est dur de tenir aussi longtemps. Je vois bien les efforts que ça a demandé cette saison. J'espère en avoir tiré des leçons pour la saison prochaine.
Gringalet, Brady n'était pas un phénomène à l'université, mais le beau gosse domine son sport depuis deux décennies. Les Patriots lui versent 15 millions de dollars par an et sa femme s'appelle Gisèle Bündchen. Ajoutez à cela un scandale de ballon dégonflé en 2015 et il n'a pas que des fans. Le numéro 12 ne court pas vite, il n'a pas le bras le plus puissant de NFL, mais c'est le meilleur. Tony Romo, l'ancien quarterback des Dallas Cowboys.
C'est un ensemble de choses qui le rend si fort. Son placement, sa qualité de passe, son calme, son assurance, sa compréhension du jeu et sa gestion du temps. Et en plus, il a toutes ses années d'expérience.
Brady a gagné le premier de ses 5 Super Bowls en 2002. Jared Goff, le prometteur quarterback des Los Angeles Rams, avait 7 ans. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et ce Super Bowl débutera à 18h30, heure d'Atlanta. Il sera minuit et demi ici à Paris et vous serez sur le dance floor. Comme d'habitude.
Comme d'habitude. En tout cas, Donald Trump, lui, ne regardera pas le spectacle. Il l'a dit tout à l'heure. Il aurait du mal à voir son fils cadet, Barron, âgé de 12 ans, jouer à ce sport, le football américain, en raison de la violence que ça engendre. Il est plutôt content de le voir s'épanouir, son petit garçon, en pratiquant le soccer. Voilà, c'est du Trump dans le texte. De l'animation à partir de demain dans les établissements scolaires, Cécilia.
Coup d'envoi de la troisième semaine olympique à l'école. Les organisateurs des Jeux de Paris 2024 débarquent en classe pour parler de l'événement, mais aussi pour tenter de donner un déclic aux enfants, à tous ceux qui pensent que pratiquer le foot sur FIFA 19 dans le canapé du salon ou que jouer en réseau avec les copains à Fortnite, ça muscle les doigts. Et bien, à tous ces enfants-là, des champions d'hier et d'aujourd'hui, vont délivrer ce message. Bougez-vous. Tony Estanguet.
Aujourd'hui, on se rend compte que 3 enfants sur 4 ne pratiquent aucune activité physique quotidienne. On a ce défi collectif, tous ensemble, de lutter contre la sédentarité qui nous guette à tous. On bouge de moins en moins dans ce pays. Ça, c'est le premier message. Et ensuite, c'est aussi auprès de toute la communauté des enseignants, c'est d'investir un petit peu plus dans le sport et les valeurs que représente le sport pour faire passer des messages. On a, nous, cette semaine, un coup de projecteur sur la mixité. Quand on pratique une activité sportive, on est tous quelque part au même niveau et on partage tous des émotions qui sont très fortes. Donc à travers du prétexte de l'activité sportive et physique, on peut quelque part faire passer des messages sur la mixité ou sur le regard sur le handicap. Donc on va aborder un peu ces différents messages avec les enfants aujourd'hui et pendant toute la semaine.
Tony Estanguet, ancien champion de canoë, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Et pas de ski alpin, puisque les épreuves de Garmisch-Partenkirchen, perturbées par le mauvais temps, ont été annulées. C'était le journal des sports de Cécilia Arbona.